Ouellette.
Yes, sir.
En direct.
Non.
En direct avec JC.
Yes, sir.
Et Patricia.
Radio X.
h 10, quand on prépare la saison radio, on regarde qu'est-ce qu'on garde, puis on regarde ce qu'on veut. On veut changer, puis on se fait une proposition pour une liste de noms, pour savoir qui pourrait intervenir. Et il y a quelqu'un qui en avait parlé, puis j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, j'aime beaucoup son approche, j'aime beaucoup la façon dont il écrit. Ça, j'y ai déjà dit, puis je veux pas le gêner. Et on l'a communiqué avec lui, puis Max, il me dit « Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être possible. » Et ça s'est matérialisé, tout ça. Donc, à tous les jeudis, on va recevoir en chroniqueur Christian Rioux, qui est encore chroniqueur d'ailleurs depuis plus de 30 ans, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, que vous avez lu longtemps dans Le Devoir et qui est en face de moi. Il s'est même déplacé à la station pour sa première chronique. Monsieur Rioux, bonjour.
Bonjour. C'est un plaisir.
Ben, bienvenue. C'est un plaisir d'être bienvenue. Là. J'ai hâte d'échanger. Puis on en parlait justement pendant la pause. Je sais aussi que tu partages ton temps entre le Québec et l'Europe et la France.
Je suis plus souvent là-bas qu'ici, mais l'été, je suis assez souvent ici.
Tu viens faire ton tour d'ailleurs, tu me disais dans un endroit où ta famille est d'origine de la terre que tu as achetée.
Le bas du fleuve.
Dans le bas du fleuve.
Saint-Simon de Rimouski.
Un ancêtre qui était seigneur, d'ailleurs. Donc,
oui,
déjà, dans la noblesse, ça fesse. Ah. On part raide. On va jaser de DI. C'est un texte que tu as écrit. Est-ce que ça, c'est ton blog?
Oui,
c'est ton blog personnel. Où est-ce qu'on peut lire tes textes personnels comme ça?
C'est sur Substack. C'est christianrioux.substack.
Voilà, vous allez trouver. Tu nous racontes l'histoire de l'affaire Jason Hardy, qui est un Anglais, mais avant de raconter l'histoire dans le détail, jason de DI, parce que c'est une histoire qui concerne le DI, ça c'est l'inclusion, les quotas. D'ailleurs, je disais, puis je me trompais, parce que je pensais que l'Europe était fort sur le DI, puis tu m'as corrigé immédiatement, t'as dit non, pas tout à fait. Ouais. Moi, je sais que ça vient de la côte ouest américaine, entre autres l'histoire fascinante de l'Université d'Evergreen qui a fait jaser énormément. Mais tu me disais que même ici, on est assez fort là-dessus. Là.
Oui, le DI, en fait, égalité, diversité,
inclusion,
là, c'est des programmes qui visent à diversifier sur le plan ethnique, là, puis sur le plan racial, le personnel, là, soit de grandes entreprises, soit dans les universités. C'est très fort dans les universités.
Disons-le, c'est des quotas, carrément.
C'est des quotas, oui. Je pense qu'on peut dire ça, c'est des quotas. C'est très, très fort aux États-Unis, c'est très fort, c'est fort au Québec aussi,
c'est
et
vrai.
Ça arrive en Europe. Ça arrive, justement, c'est pour ça que je pose la question, un peu le débat, parce que le débat est très fort là-bas, justement, sur ces questions-là, parce que ça heurte un peu les habitudes, les façons de fonctionner. Est-ce que la race, est-ce que l'ethnie doit devenir un critère d'embauche? Et pas seulement l'excellence ou les qualifications.
Ce qui me fascine, c'est qu'on n'ait pas eu ces débats-là ici. Ça me fascine.
Ça, vous avez raison. Ça, c'est vrai.
Est-ce que j'ai raison en général? Puis moi, je suis ici, puis je vis ici, mais j'aime beaucoup lire les journaux d'ailleurs, lire la presse. Même juste, des fois, tu lis les journaux canadiens-anglais, puis tu vois une certaine forme de différence culturelle, différence aussi dans le sens de l'information, dans qu'est-ce qu'on doit raconter. À toutes les fois, je suis un peu ébranlé du fait qu'au Québec, on ne débat pas beaucoup. Puis tu passes beaucoup de temps en France. Je l'entends aussi de la bouche de Mathieu Bock-Côté qui passe aussi beaucoup de temps en France. En France, quand vous regardez les shows de plateau, tu sais, les shows là, avec des invités face à face, tu te dis, faut pas qu'il y ait un couteau qui traîne, ça va finir en meurtre. Tu sais, mais des fois, ça va peut-être loin, mais ça débat.
Ça débat en France en particulier, ça débat pas à peu près. C'est une vieille tradition. La France, je pense... La France aurait éclaté s'il n'y avait pas des débats.
Oui.
Ça a commencé il y a longtemps, au 18e siècle, il y avait des salons. Hein? Les dames réunissaient les gens avec des opinions différentes, puis ils faisaient débattre.
Ça donnait un spectacle ou quoi? Ça les divertissait?
C'est un plaisir de l'esprit, c'est un plaisir de parler, c'est un plaisir de l'élocution, de se contredire. Mais...
On n'a pas ce plaisir. Moi, je trouve ça plaisant.
On a de la difficulté ici. Des fois, les Français, je dirais, ils chicanent trop, puis ils s'ostinent trop. Mais nous, on a un peu de misère avec ça, pour une sorte de consensus, des fois, qui est lourd, je trouve, à porter. Là, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que quand le troupeau part d'un bord, tout le monde suit.
Oui,
mais c'est un peu comme ça dans le débat au Québec. Là, c'est très souvent comme ça. Je pourrais nommer des tas de sujets qui au Québec, se font, mais sans débat. Ben, le DI, on n'en débat pas. L'affaire de Jason Hardy, dont on va parler plus tard, ou à l'instant, cette affaire-là, j'ai pas vu. Ça éclate partout. Il y a eu des articles en France, il y a eu des articles au Royaume-Uni, évidemment, parce que c'est là que ça se passe. Il y a eu des articles aux États-Unis, il n'y en a pas eu un au Québec. Oui, il y en a eu un, je pense. Il y a eu une dépêche de France Presse qui a été publiée au Québec.
Mais personne ne s'intéresse à ça. Mais parce qu'ici, c'est notre réalité. Ben, en fait, quand j'ai lu ton texte, j'ai eu en tête une histoire de la fosse, puis là, j'ai pas le nom qui me revient, mais la fosse autochtone qui s'est inventée du sang amérindien et qui avait eu des prix, puis qui avait réussi à avoir des postes quand même prestigieux au gouvernement. On l'a traité comme une nouvelle, mais comme un fait divers. Tu sais, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas fait de vague, Et ça m'a fait penser à ce cas-là, puis on peut plonger dans le cas de Jason Hardy. Qui est-il et c'est quoi le... Parce que là, tu me dis, en Angleterre, là, c'est la nouvelle.
Tout le monde en parle, c'est dans tous les journaux. Tout le monde a une opinion sur ça. Jason Hardy, c'était une vedette, là, une vraie vedette du milieu universitaire au Royaume-Uni. C'est un gars qui a été engagé à 37 ans à l'Université Cambridge.
Cambridge, pour savoir, c'est prestigieux.
C'est le top.
C'est ça. T'as Oxford, t'as Cambridge.
C'est ça. Puis c'est comme Harvard un peu aux États-Unis. 37 ans, c'est jeune pour entrer à Cambridge, pour le dire. Et ça a été le premier Noir qui a été engagé à Cambridge. Alors, c'est devenu une vedette. Il y a eu des articles partout. Il y en a eu au Québec, d'ailleurs. En faisant une revue de presse, j'en ai vu il y a 3 ans.
Bon côté de l'histoire.
Le mauvais côté, on attend encore. Mais donc, il y a eu des articles partout. C'était une vraie vedette. D'ailleurs, il était à la télé et tout ça. Et je dirais avec raison, parce que quand on regarde son curriculum, on s'aperçoit que le gars, il vient d'une famille de Ghanéens, 4 enfants. Il aurait été déclaré autiste à l'âge de 3 ans. Il a été muet. Il a commencé à parler à l'âge de 11 ans.
Ben oui.
Et il a appris à lire et à écrire à 18 ans.
Et 20 ans plus tard, il est prof à Cambridge.
Exactement. Alors, vous imaginez que c'est un petit génie. Il obtient d'abord un diplôme en éducation, c'est ça? Éducation spécialisée en éducation physique. Ensuite, il fait tranquillement des universités parmi les plus prestigieuses et il se retrouve à Cambridge, vedette, tout ça. C'est quelqu'un qu'on voyait à la télévision, c'est quelqu'un qui faisait des marathons, c'est quelqu'un qui a porté la flamme olympique au moment des Jeux olympiques à Londres.
Oui.
À Londres, c'est une des photos les plus connues de lui. Alors, c'était vraiment le petit génie, l'image de la diversité au Royaume-Uni.
Un exemple à suivre. Oui,
et tout ça... Tout ça, il y a 5 jours, c'est effondré.
Et quand tu dis tout ça, c'est presque tout ça. Là.
Ah oui, c'est effondré. On a compris qu'il avait plagié une grande partie de sa thèse de doctorat, plagié les textes d'une autre étudiante qu'il avait repris à peu près 180 paragraphes à peu près. Qui ont été repris. Il y a un journaliste qui en a fait un texte d'à peu près 80 pages là, expliquant tout ce qu'il avait plagié. Il a raconté n'importe quoi sur son curriculum. Il a dit qu'il était professeur invité dans certaines universités. Les universités ne l'avaient jamais vu.
Dès que quelqu'un a enquêté, il est tombé sur une roche après l'autre.
Une après l'autre. Le gars disait qu'il avait fait 30 marathons, je pense, en 35 jours.
Exactement, 30 marathons en 35 jours.
Ça n'avait aucun sens. Les données de ses recherches... On peut vraiment les questionner. C'est des entrevues pas très nombreuses et pas très approfondies. Donc, l'ensemble presque de son curriculum s'est tout à coup effondré. Et là, les gens se sont dit, mais comment ça se fait que ce gars-là s'est rendu à ce niveau-là? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que dans le fond, le critère racial, ça n'a pas été déterminant? C'est-à-dire que les gens se sont dit, il voyait bien des incohérences, là, je veux dire, des choses assez bizarres dans son curriculum vitae. N'importe qui est capable de se dire, c'est étrange, il faudrait poser des questions. Et est-ce qu'on ne s'est pas retenu de poser des questions justement parce qu'il était noir?
Je me souviens pas de son nom, mais un grand philosophe disait, laissez pas les faits briser une belle histoire.
Il y a un peu
de ça là-dedans.
Il y a de ça là-dedans, puis il y a l'absolue nécessité, je dirais, pour les universités en particulier, de montrer là, qu'il y a une diversité.
Se trouver un trophée.
Oui, c'est un trophée, c'est ça. On exhibait effectivement ce gars-là un peu comme un trophée.
On lui a donné 2,5 millions, ben ça, c'est lui qui le dit, là, pour la publication de ses mémoires, le gars n'a pas 40 ans. T'sais.
Oui, ses mémoires sortent en ce moment, là. C'est cette semaine que ça sort aux États-Unis.
C'est rien qui est vrai.
Ça a l'air qu'ils ont un peu modifié les mémoires. Ah, okay. Les enfants, ils ont été plus discrets à cause de ce qui vient de se passer. Ils ont été plus discrets sur un certain nombre de choses. Ils avaient annoncé qu'il y avait eu deux tumeurs au cerveau. Je
pense. Oh, oui, mais
ils avaient été dans le coma après un accident de voiture. Ça, ils ont enlevé ça.
Une vie qu'ils ont rocambolesque. Là,
oui, absolument.
Ouais, mais c'est trop, ça se peut pas. Tu sais, quand on se questionne. Là, parce que là, vous me dites.
Cancer des testicules.
Ben là, non, mais ça finit plus de finir.
Oui, c'est ça, mais. Mais la grande question, c'est comment ça se fait que ce gars-là a passé à travers les mailles du filet?
Oui.
Comment c'est possible? C'est-à-dire, voulait absolument avoir une image de diversité à Cambridge et on était prêts à n'importe quoi, à prendre quasiment n'importe qui d'une certaine façon. C'est ça.
C'est incroyable.
C'est ça que ça montre. C'est-à-dire que la race, l'ethnie est devenue un critère d'embauche dans les universités. Universités qui sont supposées quand même être le summum de la compétence, le summum de l'excellence. Si la race devient un critère d'embauche, bien je dis pas que les gens qui vont être embauchés vont être incompétents. La question, c'est pas qu'ils sont incompétents, mais on n'aura pas les meilleurs.
Exactement. Et dans plusieurs domaines, tu sais, je peux comprendre. Puis encore là, je trouve que si on ouvre la porte, c'est déjà trop. Mais je peux comprendre que, bon, dans certains secteurs où tu as besoin d'une paire de bras, bon, tu peux peut-être te dire, écoute, que ce soit des bras de Québécois de souche ou de quelqu'un qui vient d'arriver, des bras, c'est des bras. Mm-hmm. Mais même à ça, je me dis, écoute, si les bras qui arrivent de l'étranger sont meilleurs, on peut les prendre.
Ben oui.
Si les bras d'ici sont meilleurs, on va les prendre. Mais ça, juste ça, ce que je viens de dire là, tu sais, dans certaines radios, je pourrais pas dire ça. Ouais. Là, ouais. Juste ça, ça devient, oh, il y a un jugement, il y a quelque chose. T'sais. Alors que moi, je l'ai jamais compris, cette... Ce chemin-là mental vers l'EDI, je ne l'ai jamais saisi.
Oui, effectivement, c'est-à-dire on est dans des sociétés qui doivent absolument... Où la question de la race est redevenue une question importante. Ça l'a été aux États-Unis, par exemple, dans les années 30, 40, 50. Et là, la race se redevient... Moi, je fais partie d'une génération où la question de la race, on n'a jamais parlé de tout ça. Mm. J'ai eu des amis noirs, j'ai eu des amis de toutes sortes de pays.
Tout comme l'orientation sexuelle, d'ailleurs. Là,
Et depuis 10 ans, tout à coup, la race devient quelque chose de fondamental dans des pays qui sont quand même les moins racistes au monde. Mm. Bon, je veux dire, allez vous promener un peu dans les pays africains,
au
Moyen-Orient, par exemple, et même en Asie, vous allez vous apercevoir que
Il n'y a pas de pays
dans les pays où il y a le moins de racisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais... Non, mais...
Moi, j'ai toujours eu un bug avec ça. Et ce que tu viens de soulever là, c'est important. C'est-à-dire que moi, je pense que là-dedans, il y a une espèce de sentiment de remords concernant notre histoire. Parce que oui, il fut un temps, puis je suis tombé beaucoup dans les lectures, c'est le 250e anniversaire de la création des États-Unis, et je suis tombé dans les lectures des biographies de Washington puis de Lincoln, puis je regardais justement, je suis en train de lire Abraham Lincoln, puis je me dis, tabarouette, il fut un temps pas si lointain où on vivait l'esclavage, et c'est terrible. On s'entend, il n'y a personne. Personne ne va venir me faire l'éloge d'esclavage. C'est complètement. C'est animal, c'est d'un autre monde. Ça ne se peut pas qu'on vive ça. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on nous le ramène souvent.
Oui.
Oui, puis l'esclavage. Oui, mais là, l'esclavage, je veux dire, moi, je n'étais pas là. Puis nos sociétés n'étaient pas là.
On n'est pas nécessairement responsable du fait que nos ancêtres.
Pas nécessairement. On n'est pas du tout responsable. Donc. Est-ce qu'il y a là-dedans une espèce de fausse vertu à vouloir s'excuser? Je vois ça beaucoup, là, tu sais, des gens qui sont quasiment prêts à... Oh mon Dieu, un immigrant, je vais lui donner mon chapeau, ma chemise, je m'excuse pour tout ce qu'on vous a fait. Tu sais,
il y a une espèce de remords, là, un peu mal placé, un peu délirant là-dessus, d'autant que, bon, quand on parle d'esclavage... Le gros de l'esclavage, historiquement, ça a été un esclavage intra-africain.
Oui.
À l'intérieur même de l'Afrique.
Oui.
Et on ne parle pas là, de l'esclavage du Moyen-Orient qui a duré...
Arabo-musulman
qui a duré pendant des siècles.
Et qui est encore soupçonné d'exister encore aujourd'hui.
Les Iroquois pratiquaient l'esclavage.
Oui.
Non, mais c'est très répandu. Notre société n'est pas la seule à avoir pratiqué l'esclavage. Et effectivement, en quoi est-ce qu'on est responsable de ça? Je trouve que moi, là-dedans, il y a une sorte, effectivement, de remords. Mais je dirais qu'à la limite, il y a une forme de condescendance. C'est-à-dire... c'est comme si on considérait les étrangers. C'est comme, il y a comme un racisme inversé.
Ouais.
Un racisme renversé, une forme de condescendance. Ces gens-là, c'est comme s'ils étaient trop niaiseux pour qu'on les critique, pour qu'on leur pose des questions, pour qu'on les considère exactement comme...
Ils ne seront pas capables, on va le laisser passer.
Exactement, ils sont noirs, donc...
Comme on fait avec les enfants.
On le fera pas, mais c'est condescendant de faire ça.
C'est infantilisant.
C'est très condescendant, c'est infantilisant. Ces gens-là sont des adultes, ils sont capables de prendre la critique, ils sont capables de discuter pareil comme nous. Il n'y a pas de différence, ils sont capables de passer les mêmes tests pour un emploi ou pour... Ils n'ont pas besoin d'être favorisés, je veux dire, à moins qu'on les considère comme des débiles.
Comme la femme, ça, on aime réussir parce que on a les compétences et non pas parce que tu es rendu à choisir une femme.
En passant,
c'est la même affaire. Là, je veux pas que tu me choisisses parce que là, tu dis ah, là, on est dû pour une femme. Non, je veux que tu me choisisses parce que tu trouves que je suis excellente et compétente dans mon travail.
Mais moi, le jour où un patron vient me voir puis qu'il me dit on t'a pris parce que t'es en surpoids, ça nous prenait un quota de surpoids. Non, mais.
Non, ça finit plus.
Moi, je veux plus être là. Tu comprends? Je dis, mais non, mais là, je pensais pas être là pour ça. Là,
imaginez la suspicion que ça crée, ça. C'est-à-dire, si on s'aperçoit que des Jason Hardy, il y en a plein.
Il y en a probablement.
Il y avait eu la fameuse Christine Gill, qui a été rectrice de Harvard, à peu près, qui a été aussi, elle, convaincue de plagiat, etc., qui a dû démissionner. Mais si ça se généralise, ça, imaginez la suspicion que ça va faire planer sur les gens qui sont nommés comme ça. Ah oui, il dirige la station de radio, il est noir. Ah, il a été nommé là parce qu'il était noir.
Mais Christian, ça, on l'entend déjà.
Et ceux qui sont vraiment compétents là-dedans, ils vont être soupçonnés d'avoir été nommés juste pour des raisons de couleur et non pas pour des raisons de compétence. Donc, ça fait planer. Les premiers qui vont y perdre là-dedans, c'est les immigrants. C'est les Noirs, c'est ces gens-là, c'est les minorités. On va les soupçonner d'avoir été nommés juste pour des raisons et pas pour des raisons de compétences. Et qu'est-ce que ça va provoquer? C'est pas une guerre raciale, parce que une société, ça peut pas marcher.
Mais est-ce que ça provoque pas aussi, à l'inverse, une forme de racisme? C'est-à-dire que la personne qui va avoir eu les compétences, mais malgré tous ses efforts, ses études, ses travaux, va être tassée en se faisant dire « désolé ». On avait besoin d'un immigrant. Toi, tu ne l'es pas.
Absolument.
Cette personne-là, je peux comprendre qu'il y en a qui vont être capables de s'auto-nuancer, mais tu en as une gang qui vont finir par dire « Je me suis fait voler ma job par une ethnie. »
Il y a des gens qui ne l'accepteront jamais et je ne veux pas me mettre en scène personnellement, mais moi, je viens d'une famille pauvre. Je viens d'une famille qui était sur le BS. Jamais j'accepterai que quelqu'un me passe devant pour des raisons qui sont des raisons... de race ou de ci ou de ça, il n'y en a pas question, j'accepterai jamais ça.
Donc, et tu as travaillé pour être où tu es.
Et je pense que je ne suis pas tout seul. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui sont exactement dans la même situation que moi et qui n'accepteront jamais ça. Je veux dire, on s'en va. Si on continue à faire ce genre de choses-là, puis ça, il y a des auteurs américains aujourd'hui qui le disent, hein, la discrimination positive, ça se posait être temporaire. Hein? Puis dans les années 60, ça va durer 30 ans, 40 ans, puis ça va être fini. C'est plus temporaire, c'est en train de devenir permanent. Et ça va donner une société qui va être sujet à une vraie guerre raciale. On s'en va aux États-Unis en particulier, puis si on ne fait pas attention, ça va venir ici, puis ça va venir en Europe. Aux États-Unis, on a une sorte de guerre culturelle aux États-Unis sur ces questions-là.
Absolument.
Et une vraie guerre raciale qui va se déclencher aux États-Unis. Quelle forme ça va prendre, je ne le sais pas, on verra. Mais on va vraiment là, fracturer la société sur une question comme ça. Si on continue à faire ça aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs américains qui disent c'est peut-être le temps d'arrêter. C'est peut-être le temps de se calmer.
Et beaucoup de gens issus des communautés noires aussi que j'entends
aussi.
De plus en plus dire faut arrêter ça, là, on n'est pas moins intelligents que les autres.
Thomas Sowell, le grand juriste américain qui est assez âgé aujourd'hui, il disait « Moi, j'en ai assez d'entendre parler de diversité. Vous m'en parlerez le jour où il y aura autant de républicains que de démocrates dans ma faculté de droit.
» Ouais, c'est ça.
D'ici là, je ne vais pas vous entendre.
Mais tu sais, de par vos origines, je me disais, on est loin du privilège blanc. Tu sais, c'est maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui vont parler de privilège blanc, mais je me dis, vous n'avez pas connu le privilège blanc. Vous avez une famille... qui était sur le bien-être social.
Oui, puis bon, au Québec, le privilège blanc, ben, on était tous blancs. Fait que,
oui.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
D'après moi, je rencontre quelqu'un du début...
Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous autres.
Mais d'après moi, au début, à la fin du 19e, là, dans 1895, d'après moi, c'était plus le privilège anglais que le privilège blanc.
Oui,
si tu jasais avec des Québécois de l'époque.
C'est sûr,
là.
Si on a connu une forme d'oppression, nous...
pas obligé d'avoir une couleur. Là.
C'était l'oppression britannique.
Et voilà.
C'est de toute évidence, c'est ça notre histoire, qu'il y a eu 3-4 esclaves qui soient passés au Québec, d'ailleurs souvent avec des Britanniques,
oui.
En général.
Oui,
il y en a eu, mais jamais eu de système esclavagiste au Québec.
Mais chacun sa répression. Hein,
mais c'est comme s'il fallait qu'on ait tous les critères américains. Hein. Les Américains ont connu l'esclavage? Bien, on a connu l'esclavage.
Ouais.
C'est comme tout ce qu'on importe des États-Unis. Je dirais que c'est une espèce de nouvel impérialisme américain qui passe par le wokisme.
Ouais.
Qui passe
par l'idéologie.
Oui, absolument.
J'ai lu une biographie, sans tomber dans les détails, il y a une partie de la biographie où le jeune homme raconte que bon, il vient dans un milieu de famille d'accueil, puis son histoire, sa biographie, c'est qu'on le suit, son parcours, et il se rend jusqu'à l'Université de Yale. C'est fascinant de par où il est passé puis comment il a pu se rendre à l'Université de Yale. Et à l'Université de Yale, quand il est là, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire les demandes de diversité, puis de laisser plus de place à la diversité. C'est des demandes des universitaires. Ouais. Et c'est là aussi qu'ils voient la naissance de des privilèges des Blancs et tout ça. Et lui, à la fin, son résumé, c'est son bilan, sa réflexion à ce propos-là, c'est de dire ça vient aussi de l'argent. De l'élite, parce que l'élite a toujours le besoin de se distancer du peuple normal, du salaire moyen. Et à un moment donné, ben là, comme les gens, à un moment donné, tu sais, aller voir Les Misérables, c'était pour l'élite. Les Misérables a été mis sur Disney+. Et à un moment donné, l'élite a un besoin de se distancer des gens avec un salaire moyen. Et on a décidé que on prenait ce sujet-là et on en faisait un combat. Que ça part de l'argent, ça part de ceux qui sont en moyen, mais qui disent tout quand on leur pose la question, mais pas chez nous, par exemple.
Ouais.
C'est bon pour les autres, mais non, on ne voudrait pas le faire chez nous, par exemple. Mais que ça viendrait d'une base universitaire d'étudiants qui ont de l'argent. Et non pas, alors que ça devrait devenir des gens qui se sentent mis de côté.
Non, c'est vrai que ça vient souvent des classes favorisées.
Est-ce qu'il y a trop de temps pour réfléchir à l'université, c'est la question?
Il y a peut-être trop de temps pour manifester, faire des occupations, mais c'est vrai que ça vient souvent de ces classes.
Des espèces de cercles d'élite intellectuelle.
Regardez les manifestations autour de la Palestine, puis allez voir les jeunes qui sont là. En général, c'est pas des jeunes...
Les parents sont
encore universitaires. Oui,
c'est même des jeunes qui sont peut-être en révolte adolescente.
Et les parents sont en moyen.
Et les parents sont en moyen, mais ces classes favorisées-là ont toujours eu la propension à faire ce qu'on pourrait appeler de la charité. Les dames de Saint-Anne d'hier, d'une autre époque.
Encore là, est-ce que c'est un remords?
Ceux qui achetaient des petits Chinois dans les années 50, c'était des milieux favorisés. C'est comme s'il fallait absolument, c'est comme un peu un œillet à la boutonnière d'être... J'ai fait de la charité. J'ai fait de la charité. Je suis une bonne personne.
Une façade de générosité. En haut de la colline, c'est bien de gérer ce qui se passe en bas, mais quand ça monte la colline, c'est moins le fun.
Oui, surtout à Québec.
Ouais. Effectivement.
Oui. C'est une image de Québécois, ça, de Québec.
Christian, merci beaucoup. Je pense pas que tu vas passer parce qu'on va se parler souvent. Tu vas être en France pendant la saison.
Oui.
Mais je te l'ai dit, je te l'aurais dit en onde, carte blanche. Moi, j'ai aucun sujet à t'imposer. Tu m'amènes ce que tu veux, les réflexions que tu veux, le débat que tu veux. On en jase, puis on fait ça à tous les jeudis comme ça. Ça va être extraordinaire.
C'est parfait pour moi.
bonne fin de petite visite au Québec.
Oui,
bon retour en France. Puis on se parle la semaine prochaine.
C'est un plaisir de venir à Québec en plus.
1333, merci, Monsieur Rioux, notre nouveau chroniqueur. On revient.
Ouellet. On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
En direct. Radio X.